nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
L'assurance maladie est au cœur des débats comme chaque année. Et encore un peu plus pour cette rentrée 2012, elle fait parler d'elle. Le 23 octobre 2012, un accord qualifié d'historique sur les dépassements d'honoraires était signé entre les trois plus importants syndicats de médecins libéraux et l'assurance maladie. À l'heure actuelle, en ce mois d'octobre 2012, les députés de l'Assemblée discutent le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, pour 2013, afin de trouver les solutions pour réduire le déficit de la sécurité sociale en le passant de 13,3 milliards à 11,4 milliards d'euros. Pour évoquer le chantier de l'assurance maladie, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean-Paul Tillemant et Michel Huguier, tous deux membres de l'Académie nationale de médecine. Ils font partie des auteurs qui ont collaboré à un ouvrage de réflexion intitulé « Sauver l'assurance maladie » et publié aux éditions L'Harmattan. Monsieur Tillemant, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Huguier, bonjour.
Bonjour.
Jean-Paul Tillemant, vous êtes professeur émérite de pharmacologie à la faculté de médecine de Créteil, Paris 12, et membre de l'Académie de pharmacie, ainsi que membre de l'Académie nationale de médecine. Michel Huguier, vous êtes ancien chirurgien, membre de l'Académie nationale de médecine, secrétaire de la commission assurance maladie et ancien conseiller technique au cabinet de Simone Veil, alors ministre de la Santé. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment est venue cette idée de condenser les réflexions de plusieurs académiciens nationaux de médecine pour la sortie de cet ouvrage ? Michel Huguier, d'abord.
Oui, cet ouvrage concerne uniquement l'assurance maladie qui n'est qu'une branche de la sécurité sociale. Je crois qu'il faut bien le rappeler pour éclaircir les idées. En fait, ce livre a été motivé par une certaine discordance entre le langage d'autorité politique, et on sait que l'assurance maladie est pavée de mesures historiques successives qui visaient chaque fois à radicalement transformer l'assurance maladie, et que malheureusement il n'en a pas été grand-chose. En fait, ce livre a trois originalités. Premièrement, il a été écrit par des personnalités qui ont eu à la fois une réelle expérience de l'exercice médical pour la plupart d'entre elles et des responsabilités administratives. La deuxième originalité est la diversité et la complémentarité des auteurs. Il y avait un conseiller maître à la Cour des comptes qui a été directeur de la Sécurité sociale pendant plusieurs années au ministère, un professeur de médecine qui a été directeur aussi de la pharmacie au ministère de la Santé, un médecin conseil national d'une caisse d'assurance maladie. Moi-même, comme vous l'avez signalé, à côté de mon exercice chirurgical, j'ai eu la chance et l'honneur pendant 3 ans d'être un des collaborateurs de Madame Peille. Et enfin, la troisième et dernière originalité, à mes yeux, est que ces collaborateurs se sont exprimés, si vous voulez, vraiment en dehors de tout point de vue corporatiste, de tout point de vue syndical, de tout point de vue électoraliste ou politicien. Avec, pour un certain nombre d'entre nous, ce qu'on pourrait appeler, on peut se faire des illusions, la sagesse du soir.
Une citation qu'on retrouve dans cet ouvrage, d'ailleurs. Alors, est-ce que vous pourriez, avant qu'on aborde les problématiques inhérentes à l'assurance maladie, peut-être résumer succinctement l'histoire de l'assurance maladie, d'où elle vient, professeur Tillemant ?
Oui, volontiers. Eh bien, ce qui a fondé la réflexion et la formation de la sécurité sociale, ce sont 4 grands principes. D'une part, l'humanisme, la liberté, la responsabilité et la participation. Alors, très brièvement, l'humanisme, c'est le respect de la dignité de la personne humaine, respect vis-à-vis du patient, mais aussi respect du patient vis-à-vis de l'institution. Et on débouche sur la notion de solidarité. Le deuxième grand principe, c'est celui de la liberté. Liberté, ça veut dire le choix du médecin par le patient, la rémunération à l'acte, et d'autre part la coexistence d'une structure publique et d'une structure libérale, et les deux devant coexister. La responsabilité, eh bien la responsabilité, c'est d'une part la responsabilité de tous vis-à-vis de l'institution, et en particulier la notion de savoir limiter
l'utilisation donc de cet outil merveilleux qu'est la sécurité sociale, limiter les dérives. Et vous voyez tout de suite arriver le problème essentiel qui est celui de la limite entre d'une part la liberté et d'autre part la responsabilité. Le principe enfin de participation, c'est que cette participation doit se faire dans la plus grande harmonie, ni aux dépens des assurés, ni aux dépens des professionnels de santé. Ça, je pense que c'est absolument indispensable si on veut avoir quelque chose de cohérent et de constructif.
Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les structures et les dispositifs qui régissent l'assurance maladie ? C'est un chapitre de votre ouvrage où l'on apprend que l'assurance maladie et puis, a beaucoup évolué dans ses directives, dans plusieurs grandes lignes de sa création. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, peut-être, professeur Tillemont, allez-y.
Oui, alors c'est une très très vieille histoire, puisque on constate que les premières esquisses d'une solidarité humaine devant la maladie ou devant le malheur, ça date d'Henri IV. Donc c'est quelque chose de très ancien et une chose qui, c'est une idée qui a déjà été utilisée donc en France depuis très longtemps. Alors bien évidemment, elle a évolué. On en parle beaucoup au moment du règne de Louis XVI, où un certain nombre d'expériences de ce type ont été faites. Mais la première loi qui institue le grand principe de l'assurance maladie, c'est Bismarck. Ça a été fait en Allemagne. On explique, et je crois avec une certaine vérité, que Bismarck a utilisé les idées françaises, mais il les a transmises dans la loi. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au départ, c'est surtout la mise en commun d'argent destiné à survenir aux besoins de gens qui peuvent avoir soit une maladie, soit un accident, soit quelque chose qui les empêche de toucher leur salaire et de vivre normalement. Alors moi, je prendrai deux exemples que je connais bien. En Alsace-Moselle, par exemple, les chemins de fer d'Alsace et de Lorraine avaient une caisse de prévoyance. Au même moment, dans les mines du Nord, on avait la caisse de secours. Autrement dit, dans un cas, on prévoyait, dans l'autre cas, on pourvoyait. Donc, dans les deux cas, c'est la solidarité, c'est le principe qui fait que, comme l'a écrit, alors je vais quand même relativement vite, ce que l'avait écrit donc Pierre Larocque, qui est le fondateur de la Sécurité sociale, « Chacun cotise en fonction de ses moyens, bénéficie des soins dont il a besoin, quelle que soit leur importance et leur coût. » Autrement dit, on cotise, mais à partir de toutes les cotisations, eh bien, on part aux problèmes de santé qu'on peut avoir.
Merci, professeur Tillemont. Alors, l'un des problèmes de l'assurance maladie aujourd'hui, et que vous soulignez d'ailleurs dans votre livre, c'est la difficulté à définir le concept de santé que l'on confond souvent avec celui de bien-être. Pour reprendre une citation de cet ouvrage, Sauver l'assurance maladie, vous parlez de l'ancestrale aspiration de chacun vers le mieux-être et le mieux-vivre. Est-ce que cette prise en charge de ce volet est problématique aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'une des clés du dérèglement de l'assurance maladie aujourd'hui en 2012 ? Michel Huguet ?
Je dirais que c'est une de ses composantes, mais quantitativement très faible. Le gros problème actuel est lié au fait que les dépenses d'assurance maladie augmentent de façon considérable, d'année en année, et malheureusement tout particulièrement en France. Les deux causes principales de cette augmentation sont d'une part le vieillissement de la population et d'autre part le progrès médical. Des chimiothérapies, si vous voulez, qui coûtaient 1 il y a 10 ans, coûtent aujourd'hui 10, avec heureusement une efficacité accrue et des tolérances qui sont très améliorées par rapport à ce qu'elles étaient il y a une dizaine d'années. Et puis il y a d'autres composantes un peu plus marginales, dont celle à laquelle vous avez fait allusion. Il y en a d'autres également que sont l'offre de soins, la prise en charge plus ou moins complète des frais par la collectivité, pour citer les principales.
Monsieur Tillemont, sur cette question, voulez-vous apporter un autre éclairage ?
Pas un autre éclairage, mais peut-être un complément. Nous avons relevé dans les charges qui pèsent sur l'assurance maladie, un certain nombre de charges que nous avons appelées des charges indues, c'est-à-dire un certain nombre de postes qui sont des postes qui coûtent cher et qui ne semblent pas, ne nous paraissent pas relever de l'assurance maladie. Et en particulier, les accidents de la route, par exemple, qui correspondent à une incapacité et c'est pris en charge par l'assurance maladie et pas par une assurance privée. un certain nombre, disons, de gestes inconsidérés, c'est-à-dire de prises de risques inconsidérées. Je pense, par exemple, aux skis hors piste. Je pense à des sports qui n'ont pas de fédération nationale et pas d'assurance particulière. Tout retombe sur les épaules de l'assurance maladie. Bon, des accidents de sport, même d'un professionnel de football qui avait été sévèrement agressé et qui a été dans l'incapacité totale de poursuivre sa profession, c'était la sécurité sociale qui a été prise en charge jusqu'au jour où, par une décision de justice, ils ont réussi à se retourner contre l'assureur de l'agresseur. Autrement dit, il y a un certain nombre de charges indues de l'assurance maladie dont nous disons que, bien évidemment, sur le coup, quand l'accident arrive, il faut bien sûr traiter au maximum, mais que la charge ne devrait pas reposer uniquement sur les épaules de l'assurance maladie.
Juste un tout petit compliment. Jean Marmot, qui était secrétaire général des comptes de la Sécurité sociale, disait déjà il y a plus de 10 ans que le problème à résoudre, et ce n'est pas le seul, aujourd'hui, est de définir les dépenses de santé qui doivent bénéficier du financement collectif des autres dépenses, auxquelles a fait allusion Jean-Paul Thiemann.
Et alors justement, quelle doit être la nature médicale des actions qui devraient relever aujourd'hui de l'assurance maladie ?
C'est la maladie à proprement parler et un certain nombre de traumatismes, si vous voulez, qui ne relèvent pas de la responsabilité individuelle, mais de la responsabilité d'un tiers. Je pense à la personne qui se fait renverser par une voiture et a une fracture. Il paraît normal, là, que la collectivité prenne en charge ses dépenses d'orthopédie.
Et notamment aussi tout ce qui concerne les affections de longue durée. Ça, c'est un point important.
Alors, les affections de longue durée, parce que, justement, elles sont de longue durée, parce que, si elles n'étaient pas prises en charge par la collectivité nationale, représenteraient un coût individuel, parfois insupportable pour les plus démunis, justifie cette prise en charge à 100% actuelle, à quelques nuances près, des affections de longue durée. Les deux problèmes qui concernent les affections de longue durée, qui représentent 60% des dépenses de l'assurance maladie, avec des dépenses d'hospitalisation, des dépenses de médicaments, des dépenses de transport, etc. Les deux problèmes sont, d'une part, la définition de certaines affections de longue durée n'est pas très claire, ce qui complique la tâche des médecins conseils qui donnent leur feu vert pour accepter qu'un malade soit pris en charge à 100% au titre de l'affection de longue durée. Et deuxièmement, ces affections doivent être assorties d'un protocole de soins tenant compte de l'efficacité des thérapeutiques, de leurs coûts. Et malheureusement, là aussi, ces protocoles ne sont pas toujours clairs. Et là, il y a, moi je suis très clair là-dessus, une défaillance considérable de la Haute Autorité de Santé dont c'était le rôle.
Est-ce qu'il n'y a pas cette tendance à considérer la santé comme finalement un bien de consommation courant ? Ça rejoint
oui,
un peu la question que je vous posais
tout à
l'heure.
Vous avez tout à fait raison.
Et c'est un des points que vous soulignez aussi largement dans cet ouvrage.
Il est certain que les avancées médicales, la prise en charge par la collectivité des dépenses de santé, le fait que la plupart des gens n'ont même pas à avancer les frais, c'est-à-dire n'ont même pas à payer un ticket modérateur, ont entraîné une certaine évolution, finalement, de la médecine, qui est devenue un bien de consommation parfois courante, comme vous le signalez, qui font que les malades se sont peu à peu transformés en usagers, et qui font encore que les médecins sont devenus, aux yeux de la plupart de nos compatriotes, comme des prestataires de soins.
En évoquant ce sujet, on ne peut pas oublier d'évoquer le rapport entre l'assurance maladie et les médicaments. Vous signalez dans votre ouvrage que 90% des consultations finissent par une ordonnance. Est-ce que là aussi, il y a des efforts à faire, un changement de mentalité, soit chez les patients, soit chez les médecins, à obtenir ?
Oui, il y a certainement un changement de mentalité à créer, à obtenir. D'abord parce que le Français, à l'opposé d'un certain nombre d'Européens, considère qu'un bon médecin a forcément prescrit des médicaments et que sortir d'une consultation médicale sans médicaments a quelque chose en France de frustrant qui n'existe pas dans les autres pays. Donc là, il y a une éducation à faire du patient, une éducation aussi à faire du médecin, mais c'est beaucoup plus difficile parce que le médecin est quand même un petit peu contraint de suivre la demande du patient. Mais ce que je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que les dépenses de médicaments, bien évidemment, on peut les diminuer, mais à l'heure actuelle, globalement, elles sont entre 16 et 20% du budget de l'assurance maladie. Alors, en supposant des économies absolument drastiques, c'est-à-dire si on diminuait même de moitié, c'est pas avec cette seule mesure qu'on résoudra le problème de l'assurance maladie. Si vous voulez, ce qui est tout à fait clair, c'est que les dépenses de médicaments sont très faciles à mesurer, à chiffrer et donc à modifier éventuellement, alors que par exemple, ce qui se passe dans l'hospitalisation, ce qui se passe dans les consultations, c'est beaucoup plus difficile. Mais ce n'est pas parce que le paramètre est facile à mesurer que en agissant sur ce seul paramètre, on résoudra les problèmes. Je pense que tu es d'accord, Michel.
Oui, moi j'ai une grande liberté, si vous voulez, d'esprit vis-à-vis de ce problème des médicaments, dans la mesure où, comme beaucoup de chirurgiens, j'ai très peu prescrit de médicaments dans ma carrière médicale. Il est très clair que la France, les Français, sont le plus gros, je reprends votre terme, consommateur de médicaments au monde, après les Américains. Et quelques chiffres, je ne veux pas en abuser, mais en 2009, sur les 8 principales classes thérapeutiques, les Français dépensaient 114 euros par an, les Hollandais 71 et les Anglais un peu moins de 60 euros. Alors pourquoi cette prescription importante française de médicaments? Essentiellement, c'est lié à une culture, une tradition, je crois, à la fois des malades qui vont voir le médecin pour qu'il leur prescrive des examens biologiques, des examens radiologiques, mais aussi des médicaments en bout de course, et puis à une éducation des médecins eux-mêmes qui indéniablement mériterait d'être reprise, notamment en matière d'une plus grande rigueur scientifique dans l'enseignement médical, qui à cet égard est très défaillant, mais également de la pharmacologie et de la thérapeutique, et c'est un chirurgien qui vous parle. Mais je crois que ce problème du médicament, qui représente, c'est vrai, que 20% des dépenses de l'assurance maladie, même si on peut gagner là-dessus, tout est bon à prendre. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir une conception caricaturale comme celle dont on entend parler dans les ondes à propos d'un livre que je n'ai pas lu. Mais il faut bien se rendre compte que c'est un problème qui est extrêmement complexe, me semble-t-il, car à côté de l'aspect purement médical ou médico-psychologique, le problème du médicament touche la recherche, touche l'économie, touche l'industrie. Il faut voir que la balance commerciale, finalement, médicamenteuse française est positive et que ces quatre composantes, médecine, recherche, économie, industrie, sont largement interdépendantes, donc c'est un problème finalement beaucoup plus complexe qui pourrait y paraître de façon, si vous voulez, un peu simpliste ou simplifiée.
Alors si la réduction peut-être de la consommation des médicaments reste un paramètre minime, vous m'offrez là un pont tout ouvert pour vous demander quelles pourraient être les solutions de financement qui pourraient sauver l'assurance maladie ou tout du moins apporter un meilleur équilibre.
Dans ce livre là auquel nous avons fait allusion là au début de cette confrontation sympathique, nous nous sommes attachés, si vous voulez, à analyser la situation avec un œil très critique, compte tenu de nos pratiques médicales ou un peu administratives, et toujours de proposer des solutions. Solutions, alors on s'est peut-être fait des illusions, mais que l'on a voulu réalistes, ce qui ne veut pas dire facile à prendre sur le plan politique. Alors ces solutions sont... Je vous citerai quelques exemples dans des secteurs différents. Il est certain qu'en matière de médicaments, pour recommencer par là, l'information du public et la formation des médecins, comme je l'ai indiqué en deux mots, c'est plus complexe, serait extrêmement importante. Un exemple, la campagne de l'assurance maladie sur les ondes des antibiotiques ne doivent pas être systématiques, a fait baisser la consommation des antibiotiques de 23% en 5 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à côté de cette diminution de la prescription et de la consommation d'antibiotiques, il y a eu un effet bénéfique pour la santé, notamment pour ces pauvres petits bacilles que sont les pneumocoques. Et grâce à la diminution de la prescription d'antibiotiques, on a vu diminuer la résistance des pneumocoques à la pénicilline. Donc finalement, il y a plus souvent qu'on croit une convergence entre un intérêt médical pour les malades et un intérêt économique. Oui, on pourrait prendre d'autres exemples. Une deuxième proposition qu'on a faite, c'est un meilleur contrôle des moyens. Et en particulier, là je vais prendre un exemple qui mériterait peut-être d'être assez détaillé parce qu'il est assez controversé, parce que mal compris. Il est certain que une insuffisance de moyens en hommes, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, ou en matériel, lits d'hôpitaux, scanners, serait préjudiciable à l'état de santé de la population parce qu'on pourrait plus faire face à une demande légitime et soigner correctement nos concitoyens. Mais il a aussi été très clairement montré, par exemple pour les médecins, qu'une au-delà d'un certain seuil, les malades ne sont pas mieux soignés, les critères de santé ne sont pas meilleurs, et par contre, les dépenses, comme on pouvait le prévoir, si vous voulez, sont plus importantes. Et il y a eu deux études de la Caisse nationale d'assurance maladie, l'une en 1975 et l'autre en 2009, qui le prouvent clairement. Lorsqu'il y avait, ce qui était nettement insuffisant, un scanner pour 1 million d'habitants en 1980, je peux vous assurer que les indications des scanners étaient portées à bon escient et que l'on ne faisait pas des scanners qui pourraient être largement évités. Donc, un meilleur contrôle des moyens. Une troisième proposition qu'on a faite, j'y ai déjà fait allusion, c'est dans la formation des médecins, une plus grande rigueur scientifique, une sensibilisation à des notions de coût-bénéfice, ou encore, pour les médicaments, je l'ai dit, la pharmacologie et la thérapeutique. Alors, je vais vous prendre un exemple de coût-bénéfice, qui est réel. Une radiographie pulmonaire coûte grosso modo 40 euros. Pulmonaire pré-opératoire. Avant d'opérer un malade sous anesthésie générale, il était habituel de faire une radiographie pulmonaire. En fait, il a été montré que ces radiographies pulmonaires ne dépistaient une anomalie chez un malade chez lequel l'examen clinique était normal que 3 fois sur 100. Ce qui veut dire que le coût du dépistage se monte à 1300 euros et que sur 10 anomalies dépistées, il y a une utilité pratique thérapeutique qu'une fois sur 10. Ce qui fait qu'au bout du compte, cette radiographie pulmonaire systématique, préopératoire, chez un malade dont l'examen clinique est normal, je le répète, le coût utile d'une radiographie est de 13 000 euros. Et indéniablement, on ne sensibilise pas les étudiants en médecine à ce type de raisonnement. Alors ensuite, les médecins sont libres de prescrire ou pas une telle radiographie. Mais ce qui est important, finalement, c'est que dans leur réflexion, ils aient été sensibilisés et ils prennent en compte, avec leur sensibilité personnelle, ce type de raisonnement coût-bénéfice, en sachant que malheureusement, la judiciarisation actuelle de la médecine ne pousse pas, si vous voulez, à être rigoureux dans cette démarche. Je prendrai un quatrième exemple, si je ne suis pas trop long, c'est celui des problèmes hospitaliers. Il faut savoir que le personnel administratif à l'hôpital public a augmenté de 15% entre 2001 et 2006. 15%. Et ce qui n'a pas empêché les hôpitaux, si vous voulez, enfin malheureusement, les hôpitaux n'ont pas été mieux gérés pour autant. Et j'en veux pour preuve que de 2006 à 2010, l'endettement des hôpitaux a doublé pendant cette période, comme le montre un rapport assez récent de juillet 2012 du Sénat. Et puis, en matière également de propositions hospitalières que nous avons faites, c'est un meilleur contrôle, si vous voulez, des prescriptions des médecins hospitaliers, comme une caisse d'assurance maladie où les médecins conseils essayent de mieux contrôler certaines prescriptions, si vous voulez, excessives au moins quantitativement, de médecins de ville. Alors le gros problème, si vous voulez, d'un contrôle de l'activité médicale et de la prescription médicale à l'hôpital public, c'est qu'aujourd'hui, les médecins conseils des caisses n'ont pas la spécialisation et la compétence, si vous voulez, pour contrôler un grand professeur qui ne manquera pas de pousser des hurlements si on vient lui dire « Pourquoi avez-vous prescrit tel examen ou tel médicament ?» Donc une proposition forte qu'on fait, mais sera-t-elle suivie, c'est d'élargir le recrutement des médecins conseils des caisses à des praticiens hospitaliers qui viennent prendre leur retraite et qui seraient volontaires pour faire ce type de contrôle, ou un certain nombre de médecins hospitalo-universitaires à la retraite, enfin en demi-solde, je dirais, comme médecins consultants, qui en général sont mis dans un placard par leurs successeurs et qui seraient peut-être très heureux d'avoir cette tâche d'intérêt général qui consisterait à venir épauler leurs confrères médecins conseils des caisses.
On est en plein dans le contrat de génération,
en
quelque
plein,
part.
En plein.
Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que vient de dire tout à fait bien Michel Huguier pour vous dire que ces prescriptions affectent aussi les examens biologiques. Beaucoup trop d'examens systématiques, beaucoup trop d'examens qui finalement s'apparente à la politique du parapluie. Car s'il y a le moindre problème, et là on rejoint la difficulté de la judiciarisation de la pratique médicale, il est clair qu'un certain nombre d'examens sont faits uniquement pour se protéger contre une action en justice, pour qu'on ne puisse pas venir dire après au médecin comme au chirurgien « mais vous n'avez pas fait tel et tel examen ». Or, là, il y a beaucoup d'examens qui sont systématiques et qui n'ont pas grand intérêt, qui sont souvent d'ailleurs des doublons et qu'on pourrait éviter.
Michel Huguier, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, je voudrais rajouter, là encore, c'était très loin de mes préoccupations quotidiennes comme chirurgien, mais j'y suis très attaché pour l'amélioration, si vous voulez, de la santé de nos chers concitoyens ou concitoyennes et dans l'intérêt, justement, de l'assurance maladie. Ce sont les problèmes de santé publique et de prévention primaire. Certes, des actions sont menées, soutenues, et il faut les en remercier et féliciter par un certain nombre d'associations, mais il est évident qu'on devrait aujourd'hui mener des actions beaucoup plus vigoureuses contre un certain nombre de calamités, il n'y a pas d'autre mot, que sont en particulier l'augmentation du tabagisme chez les jeunes filles, avec une conséquence qui se fait sentir aujourd'hui, qui est l'augmentation de l'incidence du cancer du poumon. Alors tout le monde va mourir un jour, mais mourir d'un cancer du poumon, c'est sûrement une manière particulièrement désagréable de mourir. Je donnerai aussi comme autre exemple, si vous voulez, l'obésité. Alors, il semble qu'elle stagne un peu, tant mieux, mais il faut être vigilant et il faudrait même qu'elle régresse. Il y avait quand même en 2009 15% d'obèses en France. Alors, on est, Dieu merci, loin derrière les États-Unis. Mais l'obésité est un facteur qui a été clairement démontré, qui multiplie par 12 le risque relatif d'hypertension artérielle, de diabète, de coxarthrose, de gonarthrose. Et il y a une évaluation dans un travail qui a été assez bien fait par des confrères français de surcoût pour l'assurance maladie qu'ils ont estimé entre 2 et 6 milliards par an. Je ne parle pas des addictions ou, pour faire plaisir à notre ami Nordman, de l'alcool, mais les addictions, Jean-Paul...
Jean-Paul Tillemant, oui.
Oui, bien sûr, je crois que là encore, il y a des chiffres qui nous manquent, en tout cas que je n'ai pas trouvé. Je voudrais savoir le coût des addictions dans le budget de l'assurance maladie. Nous avons parlé du tabac, nous avons parlé de l'alcool, mais il faut parler du cannabis, il faut parler de toutes les drogues, parce que ça coûte à l'État. Et malheureusement, nous n'avons pas les chiffres. Je pense qu'une action de prévention, une action rigoureuse dans ce domaine pourrait permettre de faire de très solides économies.
Je crois qu'il est déraisonnable, si vous voulez, de dire les problèmes de santé publique, la prévention doivent être au cœur de nos préoccupations et laisser faire le tabagisme chez les jeunes filles, l'alcoolisme aigu chez les jeunes, l'obésité et aussi les adductions avec ces salles dont on ne sait plus très bien comment il faut les appeler. Mais enfin, il y a un aspect de contradiction, si vous voulez, quelqu'un doué d'un certain bon sens élémentaire, si vous voulez, ne peut pas ne pas être choqué.
On va continuer sur l'assurance maladie. Un tout autre sujet, enfin, qui peut rejoindre aussi cette notion de prévention, et c'est l'un des ratés que vous soulignez, c'est celui du dossier médical personnalisé, qui a eu un parcours assez chaotique, et c'est un des points donc, que vous abordez dans votre ouvrage. Finalement, est-ce que ce serait une solution pour vous pour limiter les frais de santé inutiles ?
Non,
Michel Huguier ?
Non. Non, ça fait partie de ce que j'appelle les fausses bonnes mesures. L'analyse de la situation était, je dis bien était, les malades, quand ils vont voir un médecin, ils ne sont pas contents parce que le médecin ne leur a pas prescrit un deuxième scanner ou après un premier scanner, une IRM ou après les deux, un TEP scan, vont voir un autre médecin, etc. etc. Donc s'il y avait un dossier médical personnel, le deuxième médecin ou le troisième médecin saurait ce qui a été prescrit par les prédécesseurs. De même, lorsqu'un malade est hospitalisé, on ne referait plus l'échographie qui a été faite la veille par le médecin traitant de ville. Et alors on pensait, et c'est un ministre de la Santé qui justement faisait une grande réforme qui allait transformer radicalement les déficits de l'assurance maladie, pensait que ça allait être modifier tout. En fait, il faut savoir que tout médecin traitant est tenu déjà aujourd'hui de tenir un dossier pour chacun des malades qu'il consulte. Et deuxièmement, avec le parcours de soins, qui a été là une bonne réforme, ça limite considérablement ce nomadisme médical compte tenu du surcoût que représente la consultation d'un deuxième médecin ou d'un troisième. Donc finalement, je pense que ce dossier médical personnel ne changera pas grand-chose. Par contre, il a déjà coûté extrêmement cher, car...
71 millions aujourd'hui, en 2012, c'est
oui,
le
oui,
chiffre,
oui, depuis oui. le début de l'année. Et il faut ajouter les dépenses, si vous voulez, pour les années précédentes. Et alors, en plus de ça, il a été abordé en dépit du bon sens. C'est-à-dire qu'on a d'abord commencé par aborder, sous l'influence d'un certain nombre d'informaticiens, si vous voulez, qui y trouvent leur compte, on a d'abord abordé, enfin en grande partie, les difficultés techniques informatiques, les difficultés, si vous voulez, de confidentialité et d'ordre ordinal. Et puis, ensuite, on s'est préoccupé de savoir ce qu'on allait mettre ou pas mettre dans ce dossier médical avec un égratignage progressif, ce qui fait qu'actuellement, la réglementation fait de ce dossier médical quelque chose de totalement incohérent et même parfois dangereux. Car si un malade souhaite que quelque chose ne soit pas indiqué dans son dossier médical, le spécialiste qui va aller consulter peut méconnaître cet antécédent, et ça peut être une cause d'erreur, si vous voulez, de malfaçon, de mauvaise prescription. Donc je crois que ce dossier médical personnel, premièrement, ne changera pas grand-chose. Deuxièmement, a déjà coûté très cher et coûtera encore plus cher. Et troisièmement, a même, à la limite, peut avoir, si vous voulez, compte tenu des difficultés de ce qu'on y met ou pas sur le plan purement médical, peut avoir des effets pervers. Laissons finalement les pays comme la Grande-Bretagne ou le Canada faire les expériences, et puis ensuite, on n'a qu'à en profiter, ça nous coûtera moins cher.
Jean-Paul Timan, sur ce sujet ?
Oui, alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je voudrais attirer votre attention sur ce que j'appellerais une vraie bonne mesure. Et la vraie bonne mesure, c'est le dossier pharmaceutique. Le dossier pharmaceutique, c'est ce dossier qui appartient au patient, mais que tout pharmacien, avant de dispenser un médicament, peut consulter, de manière à voir s'il y a compatibilité entre les médicaments déjà prescrits et ceux qu'il va être amené à dispenser à son patient. Alors ça, c'est extrêmement important dans la mesure où ça évite les interactions médicamenteuses. Ça permet à un patient qui voyage d'être, à chaque fois qu'il entre dans une pharmacie, absolument au fait de tous les médicaments qu'il reçoit. Et dans notre système médical, qui est un système de spécialistes, le problème, assez souvent, des interactions médicamenteuses, ce sont des gens qui ont très bien fait leur travail, chacun dans leur spécialité, mais sans tenir compte de la spécialité d'à côté. Donc ce dossier pharmaceutique, je crois qu'il faut d'une part saluer sa création, il a été créé par l'Ordre des pharmaciens, et d'autre part, je crois qu'il faut le développer au maximum.
Alors un dernier point sur lequel je voudrais revenir, évidemment, dans cet ouvrage qui comporte 18 chapitres, vous abordez toutes les problématiques de l'assurance maladie. Mais un des points que je voulais souligner, c'est celui du rétablissement du ticket modérateur d'ordre public. Est-ce que cette solution apporterait beaucoup d'avantages et aiderait aujourd'hui l'assurance maladie ? Michel Huguet.
Vous mettez le doigt sur un problème important, délicat. Il est très clair à mes yeux que dans une société comme la nôtre, il ne serait pas tolérable, si vous voulez, que les plus démunis ne puissent pas accéder aux soins qui sont nécessaires pour... leur maladie ou même leur prévention. Mais d'un autre côté, l'évolution progressive à laquelle on a assisté depuis 30 ou 40 ans, avec la prise en charge par la collectivité de la part la plus importante des dépenses, à hauteur de 75%, à hauteur de 90% quand on ajoute la prise en charge par les mutuelles ou assurances complémentaires, le tiers payant ont amené indéniablement à une augmentation de la consommation médicale parce que les gens ne sont plus conscients finalement du coût que ça représente malgré les feuilles que leur adresse l'assurance maladie. Alors, faut pas être rêveur, trop idéaliste. Il est certain, si vous voulez, qu'une participation financière qui devrait être modulé justement en fonction un peu du niveau de revenu. Elle pourrait être minime pour ceux qui sont à la CMU, un tout petit peu plus importante pour ceux qui ont une CMU complémentaire, un peu plus importante encore, il pourrait y avoir trois échelons, à ceux qui n'ont pas la CMU, sensibiliserait quand même plus les patients, si vous voulez, au recours à des soins, à des consultations, à des examens biologiques, à des examens radiologiques. Et ça, indéniablement, ça les responsabiliserait plus, comme ça a été du reste clairement montré, si vous voulez, par des expériences déjà anciennes. J'ai en tête il y a une vingtaine d'années, il y a eu une augmentation de la prise en charge du remboursement de la consultation médicale. Dans les 3 années qui ont précédé, en 3 ans, le nombre de consultations a augmenté de 3%, et après une prise en charge financière plus élevée, le nombre de consultations a augmenté en 3 ans aussi de 37%. Alors il y a 2 interprétations. La première, si vous voulez, qui est sympathique et qui est probablement en partie vraie, est de dire enfin, ben, ça a permis à des gens qui n'avaient pas les moyens de pouvoir consulter plus facilement un médecin. Mais l'autre interprétation, qui a probablement aussi une part de vrai, est de dire ben, cette prise en charge plus importante a favorisé le recours excessif et un peu facile, si vous voulez, à la consultation médicale.
Bien, merci Michel Huguet. Sur ce point, sur ce concept du ticket modérateur, professeur Tillemant, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Michel Huguet. Je crois qu'il y a, me semble-t-il, une méconnaissance très grande du coût des soins que l'on offre à l'heure actuelle aux patients, et je pense que le leur rappeler serait une bonne chose, peut-être par le ticket modérateur. D'autre part, il est clair que sur un certain nombre de feuilles de soins, ce chiffre, cette valeur de l'acte est indiquée, mais en tout petit caractère, et en tout cas sur les feuilles de soins que je reçois, il faut vraiment que je le cherche pour le trouver. Et je crois que vraiment, il faudrait que les Français aient conscience de ce qu'il coûte pour leur santé.
Et vous pensez que économie peut être conciliée avec qualité des soins ?
Oui, tout à fait. J'ai donné l'exemple, c'en est un parmi d'autres, tout à l'heure à propos des antibiotiques. Un autre, c'est le problème de l'insuffisance rénale. Je m'en étais occupé quand j'étais au ministère avec Mme Veil. L'insuffisance rénale terminale, il y a 3 traitements possibles, que sont la transplantation, la dialyse à domicile et la dialyse en centre. Les coûts sont plus élevés pour la transplantation la première année, mais ensuite beaucoup moins élevés que les autres traitements, c'est-à-dire la dialyse en domicile ou en centre. Donc à terme, ce qui coûte le moins cher, c'est la transplantation. Et deuxièmement, il a été montré que la transplantation était également le traitement qui donnait les meilleures chances de survie prolongée aux malades et surtout, ce qui est pas négligeable du tout, le meilleur confort. Donc c'est un autre exemple où le meilleur traitement, transplantation rénale, dans l'insuffisance rénale terminale, à la fois est bénéfique sur le plan de coût pour la collectivité, mais aussi bénéfique pour le malade en termes de confort et d'espérance et de survie. En conclusion, sur l'assurance maladie, si vous voulez, ce dont je suis convaincu, c'est qu'aujourd'hui en France, il est possible de gagner considérablement en efficience par un certain nombre de dispositions réalistes, je le répète, pas toujours faciles à prendre. On dépensait, ça s'est un peu atténué, 1% de PIB de plus que les Allemands ou les Anglais en matière de dépenses de santé. 1%, ça représente 18 milliards par an. Or, les Anglais et les Allemands se portent pas beaucoup plus mal que les Français. Donc je crois que dans un premier temps, je suis persuadé que dans un premier temps, on peut gagner en efficience. Et puis ensuite, la consommation médicale et son coût augmenteront plus vite que les ressources de l'assurance maladie, surtout dans une période de stagnation économique comme la nôtre, surtout en période d'augmentation de chômage. Et à ce moment-là, tôt ou tard, ou bien on voudra maintenir notre système de financement d'assurance maladie avec ses grands principes que Jean-Paul avait rappelés, solidarité, liberté, humanisme, et peu à peu, l'assurance maladie va s'altérer, ou bien alors on veut maintenir l'assurance maladie telle que nous la connaissons et tel que nous n'en apprécions pas toujours assez, si vous voulez, les avantages, et à ce moment-là, il faudra tôt ou tard réformer son financement. Alors, est-ce que ça sera par une augmentation de la CSG ? Est-ce que ça sera par une TVA sociale ? Est-ce que ça sera un peu de les deux ? Mais je crois que c'est l'alternative qui se posera à terme. Mais je crois que dans un premier temps, il faut réduire les gaspillages, la surconsommation, autrement dit, gagner en efficience. Et c'était l'objectif de notre ouvrage.
Eh bien, merci à vous deux. Je rappelle que cet ouvrage « Sauver l'assurance maladie » aborde d'autres thèmes, d'autres sujets, comme par exemple la crise à l'hôpital, le manque de médecins. Mais malheureusement, nous allons nous arrêter là pour cette émission. Merci à vous, professeur Tillemant.
Je vous en prie, c'est avec plaisir que je suis venu chez vous.
Michel Huguet, merci à vous aussi de nous avoir éclairés. Je rappelle que vous êtes tous les deux membres de l'Académie nationale de médecine Et merci de nous avoir fait part de vos propositions pour sauver l'assurance maladie, le titre donc de votre ouvrage aux éditions L'Harmattan, qui nous a servi de socle pour cette émission. Un ouvrage très riche, très précis et, comme vous avez pu le voir aussi à l'image de cette émission, très riche en exemples concrets et en chiffres. Et tous ces éléments permettent d'appréhender intelligemment les problématiques donc de l'assurance maladie. Merci à vous deux.
C'est nous qui vous remercions pour cette appréciation sûrement trop élogieuse. Thank you.